11h sur Radio Campus Tours. Bienvenue si vous nous rejoignez, chers auditeurs, nouvelle émission La Méridienne. Et aujourd'hui, avec moi en studio, il y a du monde. Je suis bien contente. Autour des micros, quatre chroniqueurs et chroniqueuses venus avec un invité. Alors, sans plus attendre, je leur laisse la parole.
Bonjour, je m'appelle Lucas et aujourd'hui on est en compagnie de Eden, Candice, Célène et notre invité Noé. Aujourd'hui Noé, on est ici pour parler de votre profession et je voudrais vous demander si c'est possible que vous vous présentez et que vous présentez votre métier.
Oui, avec plaisir. Alors du coup moi c'est Noé Alcoléa, je suis art thérapeute à dominante, danse et art plastique, plutôt art graphique, donc tout ce qui va être dessin, encre, aquarelle. Et à côté de ça, je suis artiste performeur sur scène.
En quoi consiste précisément l'art thérapie ?
Alors l'art thérapie, c'est une pratique de soins paramédicales, donc au même titre que la psychologie par exemple, ou que l'orthophonie ou ces autres professions. Le but du jeu quand on vient voir un art thérapeute, c'est qu'on aille un peu mieux, quelles que soient les problématiques rencontrées, donc que ce soit sur le plan physique, le plan mental, le plan social. Donc on peut travailler par exemple en rééducation suite à un accident avec des problématiques physiques. On peut travailler sur l'anxiété, on peut travailler sur plein d'autres choses, sur l'isolement aussi. Et moi du coup je suis art thérapeute formée à l'art thérapie moderne, donc c'est une technique spécifique. Et en art thérapie moderne, pour caricaturer très très vite, on fait en sorte de prendre en compte toutes les problématiques de la personne, mais de voir aussi ses points forts. Et du coup, l'objectif, c'est de les renforcer pour ensuite faire en sorte que ce qui aille moins bien soit un peu plus solide ou qu'on puisse avancer malgré tout. Voilà, donc c'est ça l'art-thérapie, si on caricature un peu et qu'on va vite.
Quel type d'art utilisez-vous ?
Alors moi, j'utilise principalement la danse, donc surtout la danse contact. C'est une forme de danse contemporaine. Donc le but du jeu en danse contact, c'est d'être au moins deux personnes, voire un groupe. Et on garde toujours un contact physique. Donc ça peut être soit on se touche la main, soit on est dos à dos. Et on va travailler sur des principes d'équilibre. Par exemple, c'est comment est-ce qu'on peut porter quelqu'un sans le tenir et sans que ce soit trop en force pour le corps. Ça peut être du travail de sol, donc comment on se déplace au sol en groupe. Voilà. Et après ça, donc, je travaille sur les arts graphiques, donc le dessin, le modelage, l'encre, l'aquarelle, globalement. Et je peux aussi travailler en écriture et en scène, donc théâtre. Après, on va choisir la dominante en art-thérapie moderne, en tout cas, en fonction de ce que la personne a comme problématique quand elle vient. Parce que typiquement, si on fait de la danse, c'est pas pareil que si on fait du dessin. Le dessin, ça va être juste la main, les yeux, si on va très vite. La danse, ça va être le corps en entier. Donc en fonction des besoins, on va choisir ça. Donc c'est pour ça qu'on touche à plusieurs formes artistiques.
Pourquoi vous êtes-vous lancée dans l'art-thérapie ?
Alors c'est une très bonne question. Pourquoi je me suis lancée dans l'art-thérapie ? Alors à la base, moi j'ai fait une licence de lettres et d'art du spectacle. Parce que avant ça, j'étais danseur pendant longtemps et du coup, l'objectif, c'était de continuer un peu là-dedans. J'ai voulu me former au métier de l'enseignement et faire un master de recherche toujours en lettres et avec un petit peu de cinéma dedans, enfin voilà. Mais ça ne m'a pas plu du tout. Je me suis dit qu'en fait, ça ne me convenait pas au niveau de comment on était formé pour être enseignant. Du coup, j'ai arrêté et je me suis dit, qu'est-ce que je fais maintenant ? Donc, j'ai pris le temps un peu de me poser, de réfléchir. J'ai fait un service civique en cinéma, notamment. Et puis, une fois que ça s'est terminé, ça m'a laissé le temps de voir d'autres formations, de voir ce que je pouvais faire ailleurs. Et je voulais me rendre utile, mais rester dans les arts. Donc du coup, une fois que j'avais pris ces deux infos-là, j'ai cherché dans ce sens-là. Et j'ai fini par tomber sur l'école d'art-thérapie de Tours. Et je me suis dit que ça faisait sens parce que ça me permettrait, par mes pratiques artistiques, que j'allais pouvoir pousser plus, de rendre service à des gens et d'aider à ce qu'ils aillent un peu mieux potentiellement, ou en tout cas de me rendre utile. Du coup, c'est pour ça que je me suis formée en art-thérapie.
Est-ce que d'après vous, qu'est-ce que votre profession peut apporter à des personnes qui ont des problèmes ? Qu'est-ce que ça peut apporter ?
Alors ça aussi, c'est une bonne question. Souvent, le métier d'art-thérapeute, c'est un peu particulier parce que ça dépend des formations qu'on a. C'est-à-dire qu'en France, il existe entre 150 et 200 organismes de formation. Et en fait, y en a qui vous forment en 3 jours et d'autres en 3 ans. Donc vous doutez qu'entre 3 jours, on n'apprend pas les mêmes choses. Du coup, il arrive que des fois, les institutions, comme elles ne connaissent pas bien le métier, elles nous prennent pour des super animateurs. Donc du coup, on nous demande plus des activités artistiques toutes simples, où le but, ça va être de présenter une technique et d'apprendre à faire des choses avec cette technique-là. Mais du coup, l'art-thérapie, c'est vraiment un soin, c'est vraiment du thérapeutique. Donc pour moi, ce que ça apporte, l'art thérapie, c'est un soin, donc quel que soit le problème rencontré, encore une fois. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir aider à un mieux. Et l'avantage qu'on a, par exemple, par rapport à des psychologues ou des médecins, c'est qu'en fait, notre pratique, c'est du soin, mais un peu caché derrière des trucs cool. Donc, en fait, on a la chance d'avoir un métier où c'est plus facile de venir vers nous, ou en tout cas, ça peut faire moins peur. Et du coup, ça peut permettre aussi qu'on ait plus de facilité à aller vers le soin et à s'investir dedans. Donc voilà, par exemple, si il y a une personne qui vient vous, que vous êtes, devez aller voir parce que vous travaillez dans une institution et qu'elle est passionnée de modelage, ben là, c'est beaucoup plus facile d'aller vers elle et de faire que ça aille mieux, en fait. Donc je pense qu'on permet ça, on permet d'aller mieux en règle générale. Et aussi, on a une technique valorisante parce qu'en fait, c'est la personne qui vient nous voir qui fait en sorte que son soin fonctionne parce qu'elle est actrice dans son soin. Là où, par exemple, quand on va voir un psychologue, bah, on est assis, on discute, on échange. On a peut-être moins l'impression d'être vraiment en action. Donc je pense que ça permet de se remettre en action aussi. Et ça, c'est intéressant.
Est-ce que c'est votre premier métier ?
Alors, mon premier métier pour lequel je suis formée et que je pratique ensuite, oui. Après, j'ai fait d'autres métiers avant ça. Alors attends, faut que je retourne dans le bon sens. D'abord, j'ai fait des petites missions en tant qu'animateur, donc dans les écoles, avec des petits ateliers artistiques aussi. Après ça, j'ai fait quoi ? J'ai travaillé en collège en tant que surveillant. Voilà. Et puis après ça, qu'est-ce que j'ai fait ? Bah, j'ai travaillé du coup dans une association de cinéma, donc j'ai fait de la projection cinéma et de la médiation culturelle. Voilà. Et puis après ça, j'ai été animateur en EHPAD. Et ça, c'était le temps de ma formation. Et maintenant, voilà, art-thérapie, du coup.
Est-ce que vous exercez quand même un autre métier à part l'art-thérapie, là, tout de suite ?
Alors là, tout de suite, oui, du coup. Parce que bah, pour l'instant, je commence, donc je ne peux pas être art-thérapeute à temps plein, c'est pas simple. Donc à côté de ça, je suis artiste-performeur. Donc ça veut dire que je fais des prestations sur scène. Là, par exemple, ce week-end, j'étais à Strasbourg pour faire une date. Donc voilà, j'ai deux métiers. J'ai un métier de jour qui est du coup le soin et un métier, on va mettre des grosses guillemets, de nuit, qui est de travailler sur scène.
L'art thérapie, pour vous, c'est plus une passion ou un travail, ou alors les deux ?
Alors ça aussi, c'est une grosse question. Et je trouve que c'est une question qui revient souvent dans les métiers artistiques. En fait, c'est pas un métier passion parce que bah, ça m'a demandé beaucoup de travail et d'efforts. Donc c'était pas juste ça me plaît et c'est trop bien. C'est pas non plus qu'un travail parce que ça m'intéresse beaucoup ce que je fais et que pour moi ça a beaucoup de sens. Donc c'est pas juste je me lève le matin, je fais mon truc et je repars. Donc pour moi c'est une espèce de mélange d'entre deux, de à la fois je suis passionnée par le fait de pouvoir donner un coup de main, comprendre comment l'être humain fonctionne, comment est-ce qu'on peut l'aider à sentir mieux de quelque façon que ce soit, et en même temps parce que bah, je travaille avec des pratiques artistiques et c'est des choses qui m'ont toujours fait du bien et qui m'ont toujours plu. Donc je pense que c'est un bon équilibre entre les deux, effectivement. Plus un métier, un travail avec de la passion dedans.
On nous a parlé que vous aviez une troupe de danseurs, peut-être, ouais. Drag king.
Ouais, alors c'est pas des drag kings, c'est des drags tout court, c'est-à-dire qu'on a des drag queens, des drag kings, on a des drag queer aussi, donc plus entre deux. Et c'est un collectif, du coup, qui existe depuis maintenant quelques mois. Ça fait depuis septembre qu'on est officiellement existant. Et du coup, ouais, ça fait maintenant quelques mois qu'on fait des scènes sur tour, qu'on essaye de montrer ce que c'est aussi l'art drag, qui est du coup une autre technique artistique que je pratique. Et c'est plutôt chouette parce que ça n'existait pas sur tour avant. Ça existe dans plein d'autres villes, donc Strasbourg, Paris, enfin voilà, il y a vraiment des scènes très vivantes. Mais à Tours, il n'y avait rien, et comme c'était notre pratique et que, bah, encore une fois, les personnes queer aussi ont besoin de visibilité, on s'est dit que ça pouvait être chouette de créer un collectif ici. Donc ouais, ça fait maintenant 6 mois qu'on est là.
On peut vous retrouver où ? Sur quelle scène ?
Alors du coup, nous, on fait une date tous les mois au café Le Kubrick, donc c'est en centre-ville. Donc c'est un peu spécial, c'est un art de cabaret, donc on fait ça dans un lieu qui n'est pas un lieu de scène à proprement parler. Et là, on y va une fois par mois. Et là, prochainement, on sera aussi sur le salon du livre queer qui est organisé par la Zouze Letter de Bédélire. Donc ce sera le 4 février à partir de 13h30 à la bibliothèque centrale.
J'ai une question à ajouter. Ouais. Je voulais savoir aussi, est-ce que le contact avec les autres ne vous a jamais fait peur ou vous n'avez jamais appréhendé d'exercer votre métier ?
Alors, si. si, beaucoup. En fait, souvent, quand on est thérapeute ou quand on est soignant, on essaie de se dire qu'on ne peut pas sauver le monde de toute façon. Et c'est vrai parce qu'on n'est pas des surhumains, donc on peut pas faire ça comme ça en claquant des doigts. Du coup, faut accepter que quand les gens ils viennent nous voir, soit on pourra pas forcément faire que ça aille mieux tout de suite et que ça va prendre du temps. Il faut rassurer la personne pour qu'elle reste investie dans son soin, mais qu'elle prenne le temps de faire les choses. Et nous, il faut qu'on soit soutenant. Et en même temps, des fois, il y a des patients, tu sais pas trop comment tu vas faire, parce que soit t'as jamais rencontré ces problématiques et du coup, il faut que tu trouves des outils. Soit ça te parle trop à toi-même dans ton histoire personnelle et du coup, c'est d'autant plus difficile d'accompagner la personne. Donc si ça arrive, après avec le temps, on prend un peu de recul, on se pose, on se dit « Ok, je vais faire mon maximum et puis ce sera déjà énorme. » Et s'il y a quoi que ce soit, on en parlera avec la personne que j'accompagne et on verra comment on peut faire. Donc si, ça arrive régulièrement, mais je pense que ça fait partie du métier. Et moi, j'essaie de me dire qu'on donne toujours notre maximum, on donne toujours tous les moyens qu'on a. Après, les résultats, ils dépendent de nous, de la personne aussi, de comment elle est investie et de comment on peut travailler ensemble. Donc voilà, j'essaie de me dire qu'en faisant mon max, ce sera déjà très très bien.
Ok, merci beaucoup. Voilà.
Merci à vous en tout cas. Vos questions étaient très très chouettes et je suis ravie d'avoir pu avoir ce temps avec vous. Donc merci beaucoup.
Bien de rien.
voudrais savoir, Noé, alors vous pratiquez également l'art burlesque, le burlesque. Comment cette pratique-là influence ou pas votre travail d'art thérapeute ?
Alors du coup, je travaille pas le burlesque précisément, on est plus juste sur la technique du drag, qui est une technique à la fois dans la grande catégorie de burlesque et à la fois une technique scénique et militante. Savoir comment ça influence ma pratique, c'était ça la question ? Ma pratique de thérapeute ? Ok. C'est assez particulier parce que sur Tours, c'est une petite ville. Je suis ici depuis longtemps, donc j'ai fait pas mal de connaissances, pas mal de rencontres. Au début, quand j'ai commencé le drag et que je me suis installée en tant que thérapeute, parce que ça s'est fait quasiment en même temps, j'ai essayé de scinder les deux espaces en me disant que mon personnage, de toute façon, n'est pas forcément reconnaissable par rapport à ma personne. Donc je peux me planquer derrière du maquillage et me dire « de toute façon, on ne me reconnaîtra pas ». Ce qui en pratique n'est pas forcément vrai. Donc au départ, j'ai essayé de vraiment scinder les deux en me disant que voilà, le thérapeutique c'est d'un côté, l'artistique et le perso c'est de l'autre. Et en fait, plus je pratique les deux, plus je me rends compte que les gens qui viennent me voir sont aussi des gens qui des fois m'ont vu par hasard. Il n'est pas impossible que je rencontre des collègues aussi, ce genre de choses. Donc c'est plutôt moi qui pose mon cadre avec moi-même en me disant qu'en fait, si jamais je sens qu'une personne vient me voir en tant que thérapeute parce que je suis drague et parce que c'est intéressant et qu'elle a envie de se rapprocher de moi par rapport à ça, ce sera à moi de mettre le stop et de m'en rendre compte. Et que sinon, le reste du temps, on reste sur du soin comme d'habitude. C'est-à-dire que si l'alliance entre le patient et moi, elle se fait pas, c'est pas grave. Si le fait que je sois drague pose un problème au patient, on arrête, c'est OK. Si moi, à l'inverse, je sens que ça le fait pas non plus, c'est pareil. Et si au contraire, tout est OK, que c'est fluide pour tout le monde, il n'y a pas de raison que le soin se fasse pas. Donc j'essaie de structurer mon éthique vraiment par rapport à comment je le sens sur le moment et comment l'échange avec le patient se construit en fait. Donc ça s'influence pas tant que ça, c'est plus moi, ma pratique du drag me nourrit et vient me chercher sur toutes les questions de militance, d'identité, de rapport à l'autre dans un milieu de spectacle, et ça me nourrit ma pratique de thérapeute parce que du coup je suis en pratique régulièrement. Et je vois ce que ça fait d'être sur scène, de travailler artistiquement. Donc les deux se nourrissent en fait, très régulièrement, plus que ça devient des choses qui sont compliquées à gérer ensemble, quoi.
Mais pour autant, si j'ai bien compris, ce que vous nous expliquez, c'est que l'idée d'avoir une étiquette thérapeute queer, ça ne vous intéresse pas ?
Pas nécessairement, parce que... Comment dire ? Alors à la base, j'avais monté un projet de recherche, parce que j'étais, en plus de ma formation de thérapeute, j'ai voulu faire un diplôme universitaire pour compléter. Je voulais à la base faire mon projet de recherche sur l'accompagnement justement des personnes trans. Alors, c'était pas sur les personnes trans précisément, c'était travailler sur la diminution de l'anxiété par la danse contact chez un public trans adulte. Donc c'était très spécifique, et en fait ce projet n'a pas pu se faire pour plein de raisons. Mais je l'avais un peu enclenché, ce qui fait que j'ai quand même rencontré des patients dans le cadre de ce projet-là, que je suis aujourd'hui. Donc, moi, je pars du principe que si j'ai les outils et si la demande est claire, je peux accompagner à peu près n'importe quelle personne, indépendamment de qui elle est, donc de son genre, de ses problématiques, de son métier, de tout ça. Maintenant, c'est vrai qu'accompagner les personnes trans, parce que je suis concernée, parce que je fais un métier... de drague, donc qui vient questionner les normes de genre, et parce que personnellement je m'intéresse beaucoup à ces sujets et à tous les articles qui peuvent sortir dessus, à toutes les statistiques, à toutes les recommandations de santé qu'il peut y avoir sur le sujet, je peux effectivement accompagner des personnes trans et j'ai à cœur aussi de pouvoir le faire. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, l'alliance thérapeutique, elle se fait entre un patient et un thérapeute, et je peux pas dire oui, je veux faire que ces patients-là, parce qu'en fait, je ne sais pas. Il y a des gens avec qui ça passera pas dans les deux sens, et c'est OK. Mais par contre, oui, j'ai quand même à cœur de pouvoir accompagner ces personnes. Après, me dire thérapeute queer, ça me semble une formulation un peu étrange, parce que je ne vais pas faire que du suivi de personnes queer, en fait. Et voilà. Maintenant, si je peux être une ressource, que ce soit d'un point de vue du drag, d'un point de vue de la thérapie, de comment on peut se sentir mieux... oui, carrément, carrément. Et je suis accessible pour ça et pour en discuter, complètement.
Mais est-ce que vous sentez, par exemple, qu'il y a des personnes peut-être juste, qui savent pas trop comment parler de ces problématiques autour du genre et de l'identité, qui disent au secours, mais à qui on peut s'adresser, et on n'a pas de réponse, peut-être qu'on peut solliciter Noé. Est-ce que vous sentez un peu ça, des gens qui sont démunis, en fait, ou qui ont peur et qui savent pas, qui vont venir vous questionner pour dire, par exemple, je connais... un ami, je connais peut-être mon frère, ma sœur, mes enfants qui sont concernés par ces questions et en fait je ne sais pas du tout comment leur en parler. Est-ce que vous sentez qu'il y a des personnes qui viennent vers vous aussi avec ce questionnement-là ?
Alors oui, un peu. En fait, moi j'ai trois activités qui peuvent toucher les personnes queer. J'ai le drag dont on parlait tout à l'heure. J'ai les ateliers drag, parce que j'en ai monté aussi sur Tours depuis juin, il en existe un par mois, donc je rencontre aussi des gens dans ce cadre-là. Et ensuite, il y a mon activité de thérapeute, où de toute façon, je suis la même personne, donc les choses sont interconnectées. Il arrive des fois que des gens me reconnaissent parce que thérapeute, ou alors que les gens viennent en cabinet et me reconnaissent en tant que drag. Donc ça facilite le soin. En art-thérapie, en art-thérapie moderne, on a un principe qui est que... pour qu'une activité artistique s'enclenche, qu'il s'agisse de création ou de contemplation, il faut qu'il y ait un rayonnement artistique. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un objet qui donne envie de s'investir. En fait, cet objet, il peut être soit une œuvre d'art qu'on regarde et sur laquelle on va travailler après, soit une appétence particulière de la personne, soit le thérapeute lui-même, en fait. Et je pense que depuis que je pratique ma technique drag, j'ai potentiellement un rayonnement, justement, qui permet aux gens de se dire « Ok, cette personne, elle est investie sur tel et tel plan, elle milite, elle se renseigne, elle fait ce qu'elle peut, donc je peux lui en parler si besoin. » Donc jusqu'ici, ça m'est arrivé effectivement que des gens viennent me poser des questions soit sur le drag, soit me disent « J'ai envie de me lancer, mais j'ose pas », soit viennent me voir en suivi en me disant « j'aimerais travailler sur tel sujet vis-à-vis de mon identité de genre, donc ça peut être soit mon rapport à mon corps, soit comment en parler à mes proches, enfin voilà. » C'est des sujets qui gravitent très souvent dans tous ces espaces, en fait. Mais aussi parce que, en tant que communauté queer, en fait, on se pose beaucoup de questions tout le temps, étant donné que l'accès aux soins est compliqué à cause de, du fait que souvent les institutions prennent les problématiques d'identité de genre comme un sujet médical ou psychologique, alors qu'en fait, on est sur un versant social. Et ce qui fait que, c'est compliqué d'aller voir son médecin et lui dire « Alors, bonjour, excusez-moi, mais en fait, vous me suivez depuis 10 ans ?» Mais vous dites elle depuis le début, alors qu'en fait, mon pronom c'est il, et j'aimerais que vous m'accompagniez dans ce versant-là. On va dire que je vais faire des chiffres à l'arrache, hein. Mais dans 70% des cas, le médecin il va vous regarder avec des grands yeux et dire quoi. Et en fait, il va vous dire oui sur le moment, mais ça ne va pas suivre dans le temps. Donc le soin des personnes trans, on a des chiffres là-dessus, moi je ne les ai pas là tout de suite, mais il y a de nombreuses études qui rendent compte que, être trans, ça fait que c'est moins facile d'aller se faire soigner correctement, c'est moins facile d'être prise en charge, c'est moins facile qu'on connaisse nos problématiques. Et de fait, on peut être moins facilement accompagné. Donc, je me suis dit aussi que d'assumer d'être à la fois drague et thérapeute, ça pouvait aussi permettre à des gens qui n'osent pas parler de ces problématiques-là, de se dire, en face, il y a quelqu'un qui le vit et qui l'accompagne. Et peut-être que ça peut aider un peu plus.
Yeah.
Merci Noé. Alors je me tourne vers nos chroniqueurs et chroniqueuses. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question ultime ?
Si on pouvait préciser pour nos auditeurs, en fait, le drag, exactement, enfin, vraiment définir les termes que vous avez utilisés, en fait.
Alors, du coup, le drag, c'est un art... alors, attendez, je structure mes mots. Le drag, c'est une technique artistique qui, à la base, prend sa source dans la communauté LGBTQIA+. Donc, c'est une technique artistique profondément militante, c'est-à-dire qu'elle va venir remettre en question l'ordre établi qui est en général, il y a les hommes, les femmes d'un côté, qu'en fonction de ça on a des rôles sociaux particuliers, etc. Donc en fait le drag vient remettre en question la binarité du monde dans lequel on vit, en jouant des différents codes de genre, donc ça peut être vestimentairement, ça peut être l'attitude qu'on prend, ça peut être le rôle qu'on joue. Et il y a plusieurs formes de drag. Pour caricaturer là aussi, on a les deux extrêmes. Donc le drag queen, qui est la version la plus connue en général, qui est du coup des personnages avec une représentation, enfin un aspect féminin, et qui viennent questionner le féminin en règle générale. On a le pendant inverse, ce que moi je pratique, qui est donc le drag king, c'est-à-dire questionner le masculin et tout ce que ça implique. Et puis au milieu, on a tout ce qui est le drag queer en règle générale, avec soit du drag créature, donc là où on peut carrément remettre en question l'humain, et donc être sur des personnages plutôt du coup animaliers ou de créatures, donc dans des formes de monstres un petit peu, ou alors des club kids, qui sont donc un mouvement très spécifique des années 80 du drag. Donc voilà, le drag en règle générale, c'est donc un art militant qui vient questionner le genre et qui qu'on soit en fait en tant qu'artiste drag.
Et alors c'est quoi la différence, il y en a une avec burlesque?
Ah, le burlesque, c'est plus une grande catégorie en fait artistique. Dans le burlesque, on va avoir les feuillages, on va avoir la danse, on va avoir des petites scénettes aussi de théâtre. Donc le drag, pour moi, fait partie du burlesque, mais le burlesque, c'est la grande case dans laquelle il est.
J'avais une autre question aussi à poser. Est-ce que par rapport aux personnes, vous utilisez différentes méthodes pour aider la personne? Et si oui, est-ce que parfois vous expérimentez de nouvelles méthodes et... Si encore oui, comment vous faites pour en trouver de nouvelles?
Alors du coup, effectivement, d'une personne à l'autre, on change de technique, dans le sens où, comme je disais tout à l'heure, c'est suivant les problématiques pour lesquelles la personne vient vous voir, on ne va pas travailler la même chose. Donc d'une fois sur l'autre, déjà, on change de technique artistique. Et des fois même, dans un seul suivi, on peut changer. C'est-à-dire qu'on peut commencer par, je ne sais pas, le modelage pour telle et telle raison. Puis en fait, on va se dire que progressivement, c'est intéressant de faire de la danse. Donc on va aller vers de la danse. Puis après, on va se dire, ah mais attends, peut-être qu'on peut sculpter un personnage dansé pour telle ou telle raison, etc. Enfin, voilà. Donc c'est tout le temps en évolution. Comme quand on a un traitement, des fois, il faut l'ajuster, il faut le changer, il faut changer la molécule. C'est le même principe. Hein. Donc effectivement, on change déjà au cours du suivi et d'une personne à l'autre. Après, pour ce qui est des outils, c'est ce qui est chouette quand on a un métier de soins et créatif, c'est qu'il faut toujours trouver des nouvelles solutions. En fait, on a des obligations de moyens, mais pas forcément de résultats. C'est-à-dire qu'il faut qu'on mette toutes nos forces pour que ça fonctionne. Et puis après, le résultat, il dépend de plein de choses, comme je disais tout à l'heure. Donc, on va effectivement changer d'outils régulièrement aussi, en essayant d'en créer des nouveaux. Et puis, pour en créer, il faut prendre le temps de réfléchir, se renseigner, lire des articles, dire, tiens, j'ai cette idée, comment je peux faire pour que ça marche bien. Typiquement, moi, j'avais une séance type que j'utilisais comme première rencontre, où j'avais différents petits outils à faire dans la séance. Et puis maintenant que j'ai voulu dans ma carrière aussi, j'essaye d'affiner ces outils-là pour qu'ils soient plus pertinents, plus efficaces, que je puisse observer plus de choses. Donc c'est, pour les créer, c'est surtout du temps en fait, et de la réflexion.
Ok, merci beaucoup.
De rien.
Oui, est-ce que les soins que vous apportez sont accessibles à tout le monde ou à tous ceux qui ont des problèmes?
Est-ce qu'il n'y a pas de contre-indication, c'est ça que tu veux dire?
Oui.
Oui. Alors oui, effectivement, bonne question, je ne l'ai pas précisé, mais l'art-thérapie, elle est indiquée de façon générale pour les problématiques sur le plan de la communication, de l'expression et de la relation. Donc tu vois, c'est très 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 large. On n'a pas vraiment de contre-indication, sauf certains cas précis. Donc c'est quand même important qu'on puisse savoir si le patient a tel ou tel traitement ou telle pathologie en plus. Parce que suivant les traitements que tu prends, par exemple, tu peux avoir des tremblements qui sont dus au traitement, mais nous, il faut qu'on sache que c'est dû à ça, parce qu'on pourrait se dire, mince, il y a un problème aussi au niveau de l'oreille interne, des choses comme ça, tu vois. Enfin, on peut se dire, mince, peut-être que la technique n'est pas adaptée, alors que c'est juste ton traitement. Donc en soi, il n'y a pas de contre-indication fixe, si ce n'est qu'on n'est pas un médicament, donc on ne peut pas régler le problème juste d'un point de vue moléculaire, ça prend du temps. Donc voilà, non, on est globalement indiqué pour tous les tous les soucis du quotidien et autres. Voilà. Après, le soin se construit ensemble.
Okay.
Oui, et toutes les tranches d'âge aussi. Alors, je ne l'ai pas dit, mais du coup, moi, j'ai travaillé en EHPAD. Là, aujourd'hui, je travaille avec des adultes, mais j'ai aussi travaillé avec des collégiens. Donc, en fait, c'est vraiment... Il n'y a pas du tout de prérequis là-dessus, au contraire.
I brought you daffodils on a pretty string, but they won't flower like they did last spring. And I wanna kiss you, make you feel alright. I'm just so tired to share my nights. I wanna cry and I wanna love, but all my tears have been used up. Another love, all my tears be used all on another love, all my tears be used all on another love, all my tears.